Silcast présente la revue de presse, thème du jour, économie et opportunités, avec Victor et Sacha. Bonne écoute.
Commençons par MERS, parce que c'est concret et ça touche tout de suite des millions de gens. Le grand continent détaille le paquet estival. Réforme des retraites, du droit du travail, baisse d'impôts pour les revenus moyens, nouvelle tranche à 280 000 euros pour les hauts revenus, durcissement des arrêts maladie avec certificat dès le premier jour, contrat à durée déterminée qui passe de 2 à 4 ans, et suppression de 8% des effectifs administratifs. C'est un paquet clairement libéral, politique de l'offre assumée. Bon, journée chargée côté éco, trois pistes qui m'ont accroché. Le plan MERS en Allemagne, qui vient tout juste d'être présenté et qui essaie de sortir le pays de trois années de stagnation. Une tribune dans Politis, qui retourne complètement le diagnostic sur la crise du logement en France. Et un truc plus curieux, Astral Codex 10, qui annonce que les IA Super Forecasters sont là et qu'elles battent les marchés. Par quoi tu veux commencer, Victor ? Sur l'arrêt maladie, je te suis à moitié. Si on regarde l'effet agrégé, l'Allemagne a effectivement un taux d'absentéisme parmi les plus hauts d'Europe et à l'échelle d'une économie qui stagne depuis trois ans, ça pèse. Maintenant, est-ce qu'exiger un certificat dès le premier jour va changer grand-chose ? Probablement pas beaucoup, et ça va emboliser les cabinets médicaux. Le gain est faible, le coût est réel, donc oui, mesure symbolique plus qu'efficace. Et présentée comme un compromis, parce que le SPD peut vendre la tranche haute et les allègements pour les classes populaires comme du social. Mais la colonne vertébrale, c'est la CDU-CSU. Choc de simplification, flexibilisation du travail, moins de droits pour les salariés. La mesure sur l'arrêt maladie, franchement, c'est révélateur. MERS s'attaque au nombre d'arrêts en Allemagne comme si c'était de la fraude massive. Alors que le vrai problème, c'est la productivité et l'investissement. D'accord. Mais posons les options honnêtement. Face à trois ans de croissance nulle, tu as en gros trois voies. La relance keynésienne par l'investissement public, ce que l'Allemagne fait déjà en partie via le fonds infrastructure, le choc d'offres libérales, qui est ce que fait MERS, ou le statu quo. Le statu quo, on l'a testé, ça donne 0%. La relance seule, l'Allemagne l'assume à moitié à cause du frein à l'endettement. Reste le choc d'offres. Mais je me prends quoi d'affaire. Symbolique et politique. Parce qu'il y a le contexte des élections d'automne en Saxe-Anhalt et Mecklembourg, où l'AfD est à deux doigts de la majorité absolue. MERS doit montrer qu'il fait quelque chose, et vite. Le paquet est une réponse électorale autant qu'économique. Là, on est d'accord, Sauf qu'un choc d'offres sans demande, historiquement, ça ne relance rien. Et les mesures protectionnistes glissées dans le texte sur les industries clef montrent bien que le gouvernement lui-même n'y croit pas complètement. C'est un libéralisme domestique et un protectionnisme externe, ce qui est précisément ce que Trump fait de l'autre côté de l'Atlantique. C'est la partie qui m'a fait tiquer. 3,5% détiennent la moitié du locatif privé. À ce niveau de concentration, tu ne parles plus d'un marché, tu parles d'un oligopole patrimonial. Et le corollaire, c'est que 3,1 millions de logements sont vacants pendant que les expulsions et le sans-abrisme augmentent. Oui, et cette tribune dans Politis mérite qu'on s'y arrête. Le narratif dominant depuis des années, c'est qu'il manque des logements en France. Il faut construire, déréglementer, assouplir les normes. La tribune retourne complètement le problème en s'appuyant sur les chiffres de l'Observatoire national de la rénovation énergétique. Écoute ça. 53,4% des passoires thermiques mises en location appartiennent aux 30% de ménages les plus riches. 28% appartiennent au seul dernier décile. Et surtout, 3,5% des ménages les plus riches possèdent à eux seuls 50% du parc actif privé. Alors deux réactions. D'abord, la tribune est militante, il faut la lire comme telle, mais les chiffres sont ceux du ministère et de l'ONRE, donc solides. Ensuite, sur les solutions proposées. Obligation de rénovation sans hausse de loyer, déclaration de vacances, lutte contre la spéculation. La plus efficace en termes de gains agrégés, c'est probablement la déclaration de vacances couplée à une taxation dissuasive. Ça a été testé partiellement, ça marche partiellement. Le vrai levier, ce serait de taxer la détention multiple, au-delà d'un certain seuil. Et l'auteur nomme le phénomène la surcaptation. Des propriétaires qui accumulent des biens, y compris dégradés, indécents, et qui préfèrent les laisser pourrir plutôt que d'engager les travaux. Ce n'est pas la loi sur les passoires thermiques qui retire des logements du marché, ce sont les bailleurs qui refusent de s'y conformer. On a inversé la causalité pendant des années. Sur Parik, je passerai vite parce qu'on l'a déjà entendu beaucoup ces derniers mois. Le point 9, c'est le rapport de l'ONU au-delà du PIB qui intègre bien-être, équité, durabilité. Signal faible, mais réel, qu'il y a un début de basculement au niveau des indicateurs internationaux. Reste à voir si ça se traduit en politique publique. Et politiquement, c'est là que ça coince. Parce que ces 3,5% de ménages, c'est aussi une base électorale et un lobby qui pèse. On revient au point de Timothée Parik dans l'autre article de Politis d'aujourd'hui sur la décroissance. Le fossé entre ce que disent les données et ce que font les politiques est immense. On sait, on ne fait pas. Astral Codex Temps, papier de Scott Alexander. Il raconte qu'à la conférence annuelle des marchés de prédiction, tout le monde parlait des IA Super Forecasters. Un fondateur de start-up lui a dit que son IA avait transformé $35 en 2 millions sur Kalshi en 7 mois. Une autre boîte, Future Search, prétend battre le marché boursier de 25% avec un portefeuille neutre. Et Scott, qui est plutôt sceptique de nature, dit qu'il les croit. Bien. Et le troisième sujet, Victor, sors-nous de la déprime française. Un cas, oui. Mais quand plusieurs équipes battent Kalshi, Polymarket et le S&P avec des marges comparables sur des durées différentes, ça devient statistiquement dur à attribuer au hasard. Et la communauté qui prolonge les courbes prévoyait ce moment pour 2026-2027. On y est. 2 millions à partir de $35, ça peut être de la chance pure. Non, et c'est pour ça que je le mets dans une revue éco. Trois implications concrètes. 1. Si les IA battent durablement les marchés de prédiction, ces marchés vont se réajuster autour des prix qu'elles produisent, et donc devenir de meilleurs outils d'information pour tout le monde, gouvernement compris. 2. Les hedge funds vont massivement s'équiper, et l'avantage sera de courte durée avant que ça devienne l'infrastructure standard. 3. Et c'est peut-être le plus intéressant, les décisions publiques pourraient s'ancrer sur des prévisions probabilistes, rigoureuses, au lieu de vibes ou de rapports commandés à des consultants. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change? Parce que une IA prédit mieux que les humains sur des marchés, ça peut rester une curiosité de nerd de la Silicon Valley. Pour l'instant. Mais l'exemple qu'il donne est parlant. Il pose une question sur la probabilité de réduire de moitié les infections respiratoires d'ici 2040. L'IA déploie 3 sous-agents, lit 16 sites, et sort en 5 minutes une analyse structurée à 7% de probabilité, avec 4 raisons argumentées. Un analyste humain mettrait des jours et coûterait 1000 fois plus. Ou alors ça devient un outil de plus dans les mains de ceux qui ont déjà les moyens de payer pour, et l'asymétrie d'information s'aggrave. La démocratisation de l'accès n'est pas garantie. Scott dit que c'est plus lent et plus cher qu'un ChatGPT normal. D'accord, mais si tu peux poser 1000 questions au lieu d'une, tu changes la nature de la décision publique. C'est là que le gain agrégé devient massif. Pas parce que chaque prévision est géniale, mais parce que tu peux en faire 1000 fois plus sur 1000 sujets qu'aucun décideur n'aurait le budget de faire analyser aujourd'hui. Sur ce cas précis, l'analyse est bonne. Biologie difficile, calendrier serré, adoption incertaine, mesure impossible. Un bon consultant santé publique dirait la même chose. Ce qui est frappant, c'est la vitesse et le coût. Pas forcément la qualité au-dessus de l'humain expert. Bien sûr, c'est un outil, pas un programme politique, mais un outil qui déplace le curseur du débat de qui a raison sur les faits probables vers quelles valeurs on choisit, ce qui est plutôt sain. Le contrepoint, c'est que la qualité d'une décision ne dépend pas seulement de la qualité de la prévision, mais des valeurs qui orientent l'action. Un super forecaster te dit que la probabilité X est de 7%, très bien, mais il ne te dit pas ce qu'il faut faire. Et si tu croises les trois, tu vois bien que le débat éco de 2026 n'est plus croissance ou pas croissance, c'est à qui bénéficient les outils qu'on se donne. Sur ça, on est probablement d'accord. Sur ce point, je te rejoins. Voilà, trois angles. Merz qui tente un choc libéral pour sortir l'Allemagne de la stagnation, le logement français qui est peut-être moins une crise d'offre qu'une crise de concentration, et les IA qui commencent sérieusement à battre les marchés de prédiction. Rare, mais oui, on se retrouve demain.